Chapitre 38. Le mariage éternel. Le mariage est ordonné de Dieu.
Le mariage de l'homme et de la femme est une partie essentielle du plan de Dieu. Le Seigneur a dit : Quiconque interdit de se marier n'est pas mandaté par Dieu, car le mariage est institué par Dieu pour l'homme. Doctrine et Alliance, section 49, verset 15. Depuis le commencement, le mariage est une loi de l'Évangile. Il est destiné à durer pour toujours, pas seulement pour la vie dans la condition mortelle. Adam et Ève ont été mariés par Dieu avant que la mort soit entrée dans le monde. Ils ont eu un mariage éternel. Ils ont enseigné la loi du mariage éternel à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Les années passant, la méchanceté est entrée dans le cœur des gens et l'autorité d'accomplir cette ordonnance sacrée a été enlevée de la terre. Grâce au rétablissement de l'Évangile, le mariage éternel a été rétabli sur la terre. Question. Pourquoi est-il important de savoir que le mariage entre l'homme et la femme est ordonné de Dieu?
Le mariage éternel est essentiel à l'exaltation.
Question. Quelle est la doctrine du Seigneur concernant le mariage et en quoi diffère-t-elle de la vision qu'en a le monde? Beaucoup de gens dans le monde considèrent que le mariage n'est qu'une coutume, un accord juridique entre un homme et une femme qui vivent ensemble. Mais pour les saints des derniers jours, le mariage représente bien plus. Notre exaltation dépend du mariage, ainsi que d'autres principes et ordonnances, tels que la foi, le repentir, le baptême et la réception du don du Saint-Esprit. Nous croyons que le mariage est la relation la plus sacrée qui puisse exister entre un homme et une femme. Cette relation sacrée a une incidence sur notre bonheur maintenant et dans l'éternité. Notre Père Céleste nous a donné la loi du mariage éternel afin que nous puissions devenir comme lui. Le Seigneur a dit : Il y a dans la gloire céleste trois cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de la prêtrise, à savoir la nouvelle alliance éternelle du mariage. Sinon, il ne peut l'obtenir. Doctrine et Alliance, section 131, versets 1 à 3.
Le mariage éternel doit être accompli dans le temple par la bonne autorité.
Question. Pourquoi le mariage doit-il être accompli dans le temple par la bonne autorité pour être éternel? Le mariage éternel doit être accompli par quelqu'un qui détient le pouvoir de scellement. Le Seigneur a promis « Si un homme épouse une femme par la nouvelle alliance éternelle, par celui qui est oint, et s'il demeure dans l'alliance du Seigneur, ce sera pleinement valide lorsqu'ils seront hors du monde. » Doctrine et Alliance, section 132, verset 19. Non seulement le mariage éternel doit être accompli par la bonne autorité de la prêtrise, mais il doit aussi être fait dans l'un des temples de notre Seigneur. Le temple est le seul endroit où peut s'accomplir cette sainte ordonnance. Dans le temple, les couples saints des derniers jours s'agenouillent à l'un des autels sacrés, en présence des membres de leur famille et de leurs amis qui ont reçu la dotation du temple. Ils contractent leurs alliances du mariage devant Dieu. On les déclare mari et femme pour le temps et pour toute l'éternité. Cela est fait par quelqu'un qui détient la sainte prêtrise de Dieu et qui a reçu l'autorité d'accomplir cette ordonnance sacrée. Il agit sous la direction du Seigneur et promet au couple les bénédictions de l'exaltation. Il leur donne des instructions sur ce qu'ils doivent faire pour recevoir ces bénédictions. Il leur rappelle que toutes les bénédictions dépendent de l'obéissance aux lois de Dieu. Si nous sommes mariés par toute autre autorité que la prêtrise dans le temple, le mariage n'est valable que pour cette vie. Après la mort, les conjoints n'ont aucun droit l'un sur l'autre ni sur leurs enfants. Un mariage éternel nous donne la possibilité de continuer d'être en famille après cette vie.
Les avantages d'un mariage éternel.
Question. Quelles sont les bénédictions du mariage éternel dans cette vie et dans l'éternité? Nous qui sommes saints des derniers jours, nous avons une perspective éternelle. Nous ne vivons pas seulement l'instant présent. Cependant, le fait d'être marié pour l'éternité peut nous apporter des bénédictions dans cette vie. En voici quelques-unes. Tout d'abord, nous savons que notre mariage peut durer pour toujours. Ce n'est que temporairement que la mort peut nous séparer l'un de l'autre. Rien ne peut nous séparer à part notre propre désobéissance. Cette connaissance nous aide à faire plus d'efforts pour avoir un mariage heureux et réussi. Deuxièmement, nous savons que nos relations familiales peuvent continuer pendant toute l'éternité. Cette connaissance nous aide à être attentifs à l'instruction et à la formation de nos enfants. Cela nous aide également à leur montrer plus de patience et d'amour. Cela nous permet d'avoir un foyer plus heureux. Troisièmement, parce que nous avons été mariés à la manière de Dieu, nous avons droit à un déversement de l'Esprit sur notre mariage, si nous restons dignes. Voici quelques bénédictions que nous pouvons recevoir pour l'éternité. Premièrement, nous pouvons vivre dans le plus haut degré du royaume céleste de Dieu. Deuxièmement, nous pouvons être exaltés comme Dieu et recevoir une plénitude de joie. Question. Comment une perspective éternelle peut-elle influencer notre façon de voir le mariage et la famille?
Nous devons nous préparer au mariage éternel.
Question. Que pouvons-nous faire pour aider les jeunes à se préparer au mariage éternel? Spencer W. Kimball a enseigné « Le mariage est peut-être la décision la plus importante de toutes, celle qui a les effets à plus long terme, car il s'agit non seulement du bonheur immédiat, mais aussi de la joie éternelle. Il n'influence pas que les deux personnes concernées, mais aussi leur famille et surtout leurs enfants et les enfants de leurs enfants pendant de nombreuses générations. » Il ne fait aucun doute que, lorsqu'on choisit un conjoint pour la vie et pour l'éternité, il faut se préparer, réfléchir, prier et jeûner avec le plus grand soin, car s'il y a une décision qui ne doit pas être mauvaise, c'est bien celle-là. Enseignement des présidents de l'Église, Spencer W. Kimball, pages 214 et 215. Le mariage éternel doit être le but de tous les saints des derniers jours. Cela est vrai même pour les personnes qui sont déjà mariées civilement. La préparation au mariage éternel nécessite beaucoup de réflexion et de prière. Seuls les membres de l'Église qui mènent une vie de droiture sont autorisés à entrer dans le temple. Voir Doctrine et Alliance, section 97, versets 15 à 17. On ne décide pas brusquement, un beau jour, que l'on veut se marier au temple et l'on n'y entre pas le jour même pour se marier. Nous devons d'abord remplir certaines conditions. Pour pouvoir aller au temple, nous devons être des membres de l'Église pratiquants et dignes depuis au moins un an. Les hommes doivent détenir la prêtrise de Melchisédek. Nous devons avoir un entretien avec le président de branche ou l'évêque. S'il nous trouve dignes, il nous donne une recommandation à l'usage du temple. Si nous ne sommes pas dignes, il nous donnera des conseils et nous aidera à nous fixer des buts pour être dignes d'aller au temple. Une fois que notre évêque ou notre président de branche nous a délivré une recommandation, nous devons avoir un entretien avec le président de pieu ou le président de mission. Lors d'un entretien en vue d'une recommandation à l'usage du temple, on nous pose des questions telles que celles-ci. Avez-vous foi en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit, et avez-vous le témoignage de ces personnes? Avez-vous un témoignage ferme de l'Évangile rétabli? Soutenez-vous le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours comme prophète, voyant et révélateur? Le reconnaissez-vous comme la seule personne sur terre autorisée à exercer toutes les clés de la prêtrise? Respectez-vous la loi de chasteté? Payez-vous complètement la dîme? Respectez-vous la parole de sagesse? Êtes-vous honnête dans vos relations avec les autres? Vous efforcez-vous de garder les alliances que vous avez contractées, d'assister à vos réunions de Sainte-Cène et de la prêtrise, et de mener une vie en harmonie avec les lois et les commandements de l'Évangile? Lorsque vous demandez une recommandation à l'usage du temple, vous devez vous souvenir que le droit d'entrer dans le temple est une bénédiction sacrée. C'est un acte sérieux. Cela ne doit pas être pris à la légère. Nous devons nous efforcer sincèrement d'obéir à toutes les alliances que nous faisons au temple. Le Seigneur a dit que, si nous sommes loyaux et fidèles, nous entrerons dans notre exaltation. Nous deviendrons semblables à notre Père céleste. Voir Doctrine et Alliance, section 132, versets 19 et 20. Le mariage au temple vaut tous les sacrifices. C'est une façon d'obtenir des bénédictions éternelles inestimables. Question. Que pouvons-nous faire pour inciter les jeunes à se fixer le but de se marier au temple? Comment pouvons-nous les aider à s'y préparer?
Écriture supplémentaire.
Nous devons multiplier et remplir la terre. Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Le premier mariage a été accompli par Dieu. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. Ce que Dieu a uni. Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 8. La nature éternelle de la loi du mariage. Doctrine et Alliance, section 132. Il faut respecter les vœux du mariage. Doctrine et Alliance, section 42, versets 22 à 26. Mari et femme doivent être fidèles l'un à l'autre. Jacob, chapitre 3, versets 5 à 7.
Pour les instructeurs, tous les membres, qu'ils soient mariés ou seuls, ont besoin de comprendre la doctrine du mariage éternel. Cependant, vous devez être sensible aux sentiments des adultes qui ne sont pas mariés. Selon les besoins, aidez les élèves ou les membres de la famille à savoir que tous les enfants de notre Père Céleste qui sont fidèles à leurs alliances dans cette vie pourront recevoir toutes les bénédictions de l'Évangile dans l'éternité, y compris la possibilité d'avoir une famille éternelle.